Bonjour, c'est le dernier cours de cette année et nous n'avons pas d'invité pour le séminaire qui suit le cours, donc je vous garderai plus d'une heure pour essayer de finir. Je n'en finirai pas avec le sujet ni avec les essais, mais finir du moins ce que j'ai préparé pour aujourd'hui. La semaine passée, nous avons donc essayé de montrer l'émergence de l'identité moderne dans les essais de Montaigne, l'apparition du moi à l'état naissant, même si ce moi n'était pas encore substantivé, ce n'était pas encore le moi tel qu'il apparaîtrait peu après à l'âge classique. Et ce moi de Montaigne, hein, si je continue à en parler avec un anachronisme, on a vu que ce n'était ni le corps, ni le nom, mais la personne, l'intimité, l'intériorité, le secret, le rapport de soi à soi. Certes, on l'a dit aussi, Montaigne reprend un certain nombre de topoi, joue avec un certain nombre de topoi qui viennent de l'Antiquité, et qu'on retrouve chez les humanistes, mais ces topoi sont intériorisés, ils sont retournés vers l'autoréflexion. Michel Foucault avait parlé, lorsqu'il avait fait ses cours et ses livres sur le souci de soi, il avait parlé du souci de soi, du travail de soi sur soi, et il l'avait associé à l'Antiquité tardive. Il décrivait l'effort d'observation, l'ascèse, l'analyse, qui était présente à travers un certain nombre de techniques mentales, d'examen de conscience, d'attention à soi, d'élucidation et d'expression de soi. Mais je crois que cette nouvelle dimension d'intériorité et d'unicité du moi, de la personne, qu'on trouve chez Montaigne, n'était pas encore présente dans cette antiquité tardive décrite par Michel Foucault, c'est-à-dire dans les premiers siècles du christianisme. Il y a un très bel article de Jean-Pierre Vernant intitulé « L'individu dans la cité » et qui est une réflexion sur l'individu grec. Et Jean-Pierre Vernant reprend l'analyse de Michel Foucault et constate lui aussi que ces pratiques et attitudes que Michel Foucault observait dans l'Antiquité tardive, eh bien, elles n'existaient pas encore dans la Grèce classique, mais elles sont différentes de ce que l'on trouvera dans l'humanisme de Montaigne et à l'âge classique. Et Vernant décrit ainsi ces pratiques et attitudes que l'on trouve, me semble-t-il, chez Montaigne et qui, dit-il, constituent la personne au-dedans d'elle-même, comme un être réel, original, unique, un individu singulier dont la nature authentique réside tout entière dans le secret de sa vie intérieure, au cœur d'une intimité à laquelle nul, en dehors de lui, ne peut avoir accès, car elle se définit comme conscience de soi-même. Conscience de soi-même qui n'est pas encore le cogito cartésien, mais qui représente l'individu dans cette vie intérieure, dans cette intimité. Vernant, dans cet article sur l'individu grec, mais à partir de ses réflexions de Michel Foucault sur l'individu de l'Antiquité tardive, des premiers temps du christianisme et de l'individu moderne, distingue ainsi quelque chose comme trois stades de l'identité. Il distingue l'individu de la biographie, la biographie, au fond, comme un genre, le genre de l'individu, centré sur la vie d'un personnage singulier. Après l'individu, le sujet de l'autobiographie et des mémoires, quand l'individu raconte lui-même sa propre carrière de vie. Donc, individu et biographie, sujet et autobiographie, et enfin, moi et confession ou journaux intimes. Troisième moment. Lorsque, écrit Vernant, la vie intérieure, la personne singulière du sujet dans sa complexité et sa richesse psychologique, sa relative incommunicabilité forme la matière de l'écrit. Et Vernant d'ajouter, puisque c'est le sens de son article, qu'il n'y a pas encore d'intimité du moi en Grèce, que le moi est perçu comme un « il », comme une troisième personne, autrement dit, pour ainsi dire, à cheval entre l'individu de la biographie et le sujet de l'autobiographie, qu'on trouverait par exemple dans la poésie lyrique. Eh bien, je crois qu'on peut dire de la même façon que la subjectivité qu'on rencontre dans les essais, elle n'est ni de l'ordre de l'autobiographie et des mémoires, ni de l'ordre des confessions et des journaux intimes, mais en quelque sorte dans l'entre-deux du sujet de l'autobiographie et des mémoires et du moi des confessions et des journaux intimes. Comme on l'a vu la semaine passée, ce moi dans les essais, ce moi à la recherche duquel Montaigne se trouve, est encore décrit dans des termes qui le rattachent à l'Antiquité, comme je l'avais appelé comme un théâtre d'instance. Vernant parle de champ de force, le corps, l'âme, l'esprit, l'imagination, la raison. Dans l'Apologie de Raymond Sebon, il y a une réflexion qui s'étend sur des pages et des pages et qui est essentielle à cet égard, sur la localisation de l'âme, sur l'immortalité de l'âme, et Montaigne insiste sur les contradictions entre tous les philosophes qui font que cette âme, cette âme qui définit une identité, n'est pas localisable. Et on pourrait aussi ajouter que Montaigne ne se satisfait pas de cette identité liée à l'âme, parce que l'âme est une entité impersonnelle dans l'Antiquité, et aussi parce qu'elle est séparée du corps, comme on l'a vu dans de nombreux chapitres des essais où Montaigne analysait notamment la mort ou le rêve comme une façon pour l'âme de se libérer du corps. On a vu aussi la semaine passée que la personne, pour Montaigne, elle relève aussi du corps. La mine, l'air, Montaigne, est, d'une certaine façon, s'identifie à son air qui inspire confiance. Sa personne inspire confiance aux autres à travers son apparence. La personne est donc aussi dans cette apparence. Et vous vous souvenez de la question de Pascal, inspirée de Montaigne, qu'est-ce que le moi ? Le même moi, lorsque l'on perd la mémoire, mais aussi lorsqu'on est défiguré dans son apparence physique. Il n'y a donc pas de réponse satisfaisante dans cette longue analyse de l'apologie de Raymond Sebon sur l'âme. Michel Foucault analysait donc l'ascèse, l'exercice sur soi, le souci de soi du paganisme tardif, et il insistait sur le fait que ces démarches étaient encore des pratiques sociales, non des recherches intérieures du moi. Et puis, Michel Foucault admettait qu'il y avait eu un tournant dans les premiers siècles du christianisme où la recherche du moi se tournait vers une dimension intérieure des individus, la conscience qu'ils ont d'eux-mêmes, à travers le personnage du de l'anachorète, du saint homme, de l'ermite, du moine, qui est séparé du commun et qui recherche son véritable moi. Et à ce propos, Vernant parle, dans les premiers siècles du christianisme, d'une définition de l'individu par ses pensées les plus intimes, ses imaginations secrètes, ses rêves nocturnes, ses pulsions pleines de péché, la présence constante de toutes les formes de tentation. Le point de départ de l'individu moderne, c'est le saint homme des premiers temps du christianisme. Mais on aperçoit bien que si cette description de Michel Foucault nous rappelle certains aspects de la pensée de Montaigne et des essais, comme cette interrogation, cette vigilance chez Montaigne aux pensées les plus intimes, aux imaginations secrètes, aux rêves, eh bien, chez Montaigne, on ne retrouve pas, on l'a bien vu dans « Sur des vers » de Virgile, l'association constante de ses pensées au péché et à la tentation. Avec Montaigne, au fond, il me semble que le moi qui apparaît, ce n'est plus celui du saint homme, tout soucieux du péché et de la tentation, mais c'est celui de l'honnête homme. Et l'expression « honnête homme » apparaît souvent, ces mots « honnête homme » pour décrire ce « moi » auquel Montaigne est attentif. Voilà donc une question incessante dans les essais, celle de la personnalité, de l'identité, du moi, pour le dire en ces termes, du nouveau moi séculier, moderne. On pourrait dire que c'est aussi la question du juriste que l'on aperçoit. Par exemple, lorsque Montaigne évoque cette célèbre affaire Martin Guerre, qui avait été étudiée il y a une vingtaine d'années par l'historienne Nathalie Zimon Davis et qui avait fait l'objet d'un film intéressant dans les années 1980, Le retour de Martin Guerre. C'est une histoire d'erreur sur l'identité, d'usurpation d'identité. Et on a vu aussi que Montaigne était attentif au fait qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'erreur sur la personne, qu'on ne se trompe pas sur son nom. Montaigne évoque cette affaire dans le chapitre des Boiteux. « Je vis, dit-il, en mon enfance, un procès que Coras, conseiller de Toulouse, fit imprimer d'un accident étrange de deux hommes qui se présentaient l'un pour l'autre. » L'histoire est bien connue. Elle a déconcerté, elle a fait beaucoup parler d'elle. Un homme, Arnaud Dutille, s'était fait passer pour Martin Guerre pendant plusieurs années, y compris auprès de sa femme et de sa famille, puisqu'il était revenu après quelques années d'absence. Cet Arnaud Dutille a été condamné à mort et exécuté à Toulouse en 1560, à l'époque où Montaigne y séjournait, après un jugement rendu sur un rapport de ce magistrat Jean de Coras qui publia l'arrêt, évoqua la magie de deux hommes qui se présentaient donc l'un pour l'autre. Il me souvient et ne me souvient aussi d'autre chose, Montaigne ne se souvient que de cela, qu'il me sembla avoir rendu l'imposture de celui qu'il jugea coupable si merveilleuse et excédant de si loin notre connaissance et la sienne qui était juge, que je trouvais beaucoup de hardiesse en l'arrêt qu'il avait condamné à être pendu. Recevons quelques formes d'arrêt qui disent « la cour n'y entend rien ». Montaigne donc reste, si vous voulez, perplexe devant des cas de ce genre, des cas de substitution de personnes, de mystère, du double. Quelqu'un se fait passer pour un autre et dupe tout le monde, y compris sa propre famille et sa propre femme, sans doute complice. Voilà une affaire qui déconcerte, et qui pose avec urgence cette question, en termes juridiques cette fois, qu'est-ce qu'une personne ? Nous avons vu la semaine dernière que ce moi intime était révélé à Montaigne à la faveur de l'amitié. Et je vous rappelais cette phrase célèbre et comment elle était venue à Montaigne en trois temps. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer. Et puis, premier ajout, qu'en répondant parce que c'était lui, parce que c'était moi, en trois temps. Ou encore, juste à côté, le secret que j'ai juré ne déceler à nul autre, je le puis sans parjure communiquer à celui qui n'est pas autre, c'est moi. Il s'agit donc non pas encore du moi substantivé, mais ce moi est très insistant dans ces pages du chapitre de l'amitié. Et je crois qu'on peut en effet repérer dans les essais ce lien très fort de l'intimité nouvelle, cette intimité qui définit la personne, qui commence de définir la personne dans les essais de Montaigne, et de l'amitié. Intimus, je crois l'avoir déjà rappelé, c'est le superlatif de intérieur, c'est ce qui est le plus en dedans, au fond. L'intime, c'est à la fois une personne qui est étroitement liée à une autre, et c'est aussi la vie intérieure au plus profond d'un individu. Et cela, dès les essais de Montaigne, dès le XVIe siècle, l'intime, c'est ce qui me définit dans mon être le plus propre. Pour Montaigne, en effet, l'intime est régulièrement associé à l'amitié. Et l'adjectif intime apparaît souvent dans le contexte de l'amitié. L'adjectif intime renforce le substantif ami de manière ordinaire, comme dans une phrase telle que celle-ci, « J'ai vu quelqu'un de mes intimes amis », etc. « Courir à la mort », en l'occurrence. Ou encore, dans une sorte de surenchère du superlatif, Montaigne dit que la raison est pour Socrate son plus intime et plus familier ami. Son plus intime et plus familier ami. Tout cela est très redondant, intime, familier et ami, et en plus avec ce superlatif. Mais l'intime est aussi très souvent lié dans les essais à l'intériorité même et au secret d'une personne. Ainsi, Montaigne écrit que le vin fait débonder les plus intimes secrets de ceux qui en ont pris outre mesure. La boisson vous fait révéler ce qu'il y a de plus intime et de secret en vous. Montaigne associe aussi l'intime aux passions les plus profondes. « Je ne suis pas sujet, dit-il, à ces hypothèques et engagements pénétrants et intimes, la colère et la haine. » Ces passions les plus intimes, profondes, pénétrantes, que seraient colère et haine. Ou encore dans « Sur des vers de Virgile », et j'ai peut-être déjà cité cette phrase, lorsque Montaigne évoque le devoir de tout dire, il le justifie ainsi, ce devoir de ne rien cacher, de tout exposer, il le justifie ainsi devant celui qu'il appelle ce grand juge, Dieu, ce grand juge qui trousse nos panneaux et haillons d'autour nos parties honteuses et ne se feint point à nous, voire partout, jusqu'à nos intimes et plus secrètes ordures. Donc Dieu qui voit sous les apparences, sous les panneaux et haillons dont nous nous recouvrons, et qui découvre nos plus intimes et secrètes ordures. L'intime est ici rapproché de la honte, de ses parties honteuses, de l'impureté. Nous avons vu que Montaigne appelait régulièrement les excréments ordures, ou encore de la souillure morale, de l'impureté morale. Ainsi, l'adjectif intime dans les essais de Montaigne figure souvent dans un redoublement, dans une surenchère, dans un superlatif ou auprès d'un superlatif. Or, je l'ai rappelé, c'est déjà un superlatif. Son plus intime et plus familier ami, les plus intimes secrets, nos intimes et plus secrètes ordures. L'intime est donc proche du secret qui définit la personne. Il est rapproché de ses organes sexuels, ce que Montaigne appelle les parties honteuses. On pourrait aussi rappeler ce que je disais l'autre fois de l'argent, ce seul secret que Montaigne reconnaissait, ce seul mensonge qu'il avouait, ce rapport difficile, caché qu'il avait eu à l'argent entre sa jeunesse désargentée et sa maturité généreuse. Entre les deux, il avait caché, dissimulé ce qu'il avait d'argent. On pourrait dire que l'intime, ce sont encore les entrailles. Et nous avons observé ce mot « entrailles ». L'expression, je crois que nous l'avons citée la semaine passée dans le chapitre de l'amitié. Dans l'amitié, disait Montaigne, avec la Boétie, « nos âmes se sont découvertes jusqu'au fin fond des entrailles l'une à l'autre ». Bien sûr, Montaigne parle toujours de ses âmes comme de ce lieu de l'intimité. Et on a vu que c'est un peu problématique puisque ses âmes, dans l'apologie de Raymond Sebond, il a découvert qu'on ne savait pas très bien ni où elles résidaient ni où elles allaient. Nos âmes se sont découvertes jusqu'au fin fond des entrailles. Et l'expression figure également dans le chapitre sur des vers de Virgile, dans une des... Excusez-moi. Dans une des formulations les plus emblématiques du... Dans une des formulations les plus emblématiques du projet des essais. Moi, qui me voit et qui me recherche jusque aux entrailles, qui sait bien ce qui m'appartient, qui me recherche jusque aux entrailles. Le moi, l'intime, réside donc au plus profond des entrailles de l'homme. Quelques remarques encore sur ce moi nouveau qui apparaît dans les essais comme intimité, comme intériorité, par opposition au rôle, à la place, dans la cité. Jean-Pierre Vernant soulignait l'absence de cette intériorité dans la Grèce ancienne et notamment l'absence de genres littéraires comme les confessions ou les journaux intimes, puisqu'il associait ce « moi » à cette nouvelle forme littéraire. L'individu, disait-il, y est défini par son état. Le « moi » ancien n'est pas dans l'intimité, ni dans l'unicité, mais dans sa place, dans sa position. À la Renaissance, on peut dire que le « moi » est encore à peine autre chose qu'une place ou une condition. Sans doute, l'individu ne se définit-il plus seulement par sa naissance, mais aussi par ses actes, par son activité dans le monde, par le somme de ses faits et gestes. Autre définition de l'individu, les actes, et non seulement le rang, l'importance du métier, l'importance de l'expérience individuelle, du mérite, par opposition à l'autorité de l'héritage. Mais on sait tout ce que Montaigne dit aussi contre cette définition de l'individu par ses faits et gestes dans le monde. On a vu beaucoup de citations déjà où Montaigne écrivait par exemple « Je ne puis tenir registre de ma vie par mes actions ». Je ne puis tenir registre de ma vie, écrire ma vie, on a parlé du registre, par mes actions. Fortune l'aimait trop bas, je le tiens par mes fantaisies. L'excuse de la bassesse des actions permet de sauter le pas vers une autre définition de la personne. Mais le passage le plus connu, que je vous rappelle, c'est celui du chapitre de Ménager sa volonté. Il faut jouer dûment notre rôle, mais comme rôle d'un personnage emprunté. Du masque et de l'apparence, il n'en faut pas faire une essence réelle, ni de l'étranger le propre. Le maire et Montaigne ont toujours été deux d'une séparation bien claire. Pour être avocat ou financier, il n'en faut pas méconnaître la fourbe qu'il y a en telle vacation. Un honnête homme, voici l'honnête homme dans l'une de ses expressions de Montaigne, un honnête homme n'est pas comptable du vice ou sottise de son métier et ne doit pourtant en refuser l'exercice. C'est l'usage de son pays et il y a du profit. Autrement dit, Montaigne joue un certain équilibre entre cette facticité du métier, de l'activité dans le monde et cette vérité intérieure du propre, de l'essence réelle, mais sans s'exclure du monde, sans s'exclure de ce qui est l'usage du pays, usage légitime et qui assure la paix et le profit. C'est donc tout différent chez Montaigne, lequel refuse à la fois la définition de sa personne par sa condition, son rang, sa naissance, mais aussi par ses actions, ses faits et gestes, et qui leur oppose cette intimité du discours personnel dans les essais. La personne devient intérieure. On peut dire qu'elle reste extérieure chez les mémorialistes. Mais je ne dirai pas grand-chose des mémorialistes, puisqu'il est vrai qu'ils sont confrontés. Les mémorialistes, en général, écrivent sur leur échec historique, et l'échec exige une réflexion sur l'intériorité, une réflexion sur soi. L'échec est la motivation des mémoires qui apparaissent à la Renaissance et qui se développeront avec la Fronde, et on peut dire aussi qu'ils sont une voie vers l'intériorité, vers la remise en cause de soi. Or, ce discours de l'intimité dans les essais ne va pas du tout de soi. Il requiert une explication, une justification, une légitimation. Je ne reviendrai pas sur le prologue au lecteur. Bien connu, le livre s'adresse à un public privé, aux proches. Mais je voudrais évoquer un moment cette longue addition, coda, du chapitre de l'exercitation de 6 que j'ai laissé de côté il y a un certain nombre de semaines lorsque j'ai analysé ce chapitre, la chute de cheval, comme expérience personnelle fondamentale, puisque c'est le plus long chapitre qui est consacré à une expérience vécue et qui dépend en entier du récit de cette expérience. Mais Montaigne, à la fin du chapitre, ajoute un long développement pour se justifier de parler de lui-même. « Il y a plusieurs années que je n'ai que moi. Et voyez cette densité du moi, non encore substantivée ici. Il y a plusieurs années que je n'ai que moi pour viser à mes pensées, que je ne contrôle et étudie que moi, et si j'étudie autre chose, c'est pour soudain le coucher sur moi ou en moi, pour mieux dire. Et ne me semble point faillir, me tromper, si, comme il se fait des autres sciences, sans comparaison moins utile, je fais part de ce que j'ai appris en celle-ci. Quoi que je ne me contente guère du progrès que j'y ai fait, il n'est description pareille en difficulté à la description de soi-même, ni certes en utilité. Encore se faut-il tétonner, peigner, hein, encore se faut-il ordonner et ranger pour sortir en place, pour se montrer aux autres. Il y a donc deux problèmes. D'une part, l'étude de soi, d'autre part, l'écriture de soi. Penser à soi, d'un côté, ce que Montaigne peut justifier, mais plus difficilement encore, en faire part, se décrire, publier. Le saut de l'un à l'autre n'est pas nécessaire. L'étude de soi peut suffire à se connaître et à bien vivre. Pourquoi faudrait-il encore le publier ? L'écriture de soi, le parler de soi, doit être justifié par rapport à l'accusation de vanité. La coutume, écrit Montaigne, dans ces pages, dans cette page, a fait le parler de soi vicieux et le prohibe obstinément en haine de la vantance, le vent, la vantardise, qui semble toujours être attachée au propre témoignage. Condamnation donc de l'autobiographie, des mémoires, les propres témoignages. Montaigne se réclame cependant de Socrate, illustre prédécesseur et promoteur du « connais-toi toi-même ». De quoi traite Socrate plus largement que de soi ? À quoi achemine-t-il plus souvent les propos de ses disciples qu'à parler d'eux ? Non pas de la leçon de leurs livres, mais de l'être ébranle de leur âme, du mouvement de leur âme. Reste que, suivant Vernon, l'âme grecque n'est pas une âme personnelle. Cette âme que Socrate cherche à faire connaître à ses disciples survivra à la personne. Elle n'est pas individuelle. Elle s'incarnera dans un autre homme. L'âme immortelle, écrit Vernon, ne traduit pas chez l'homme sa psychologie singulière. Et c'est aussi la raison pour laquelle Montaigne reste tellement perplexe à propos de cette notion d'âme dans l'apologie de Raymond Sebon. L'âme, même s'il utilise couramment ce mot, ne traduit pas la psychologie singulière. Nous nous disons religieusement à Dieu et à notre confesseur comme nos voisins à tout le peuple. Allusion à la confession auriculaire des catholiques et à la confession publique des protestants, à laquelle Montaigne emprunte ici. Montaigne critique donc les préjugés communs contre le discours personnel, le parler de soi, y compris les préjugés de l'Église, qui admet la confession. Nous nous disons religieusement, c'est-à-dire scrupuleusement, avec soin, mais aussi conformément à la religion, mais en dehors du cadre de cette confession auriculaire ou public, le parler de soi est interdit. Ce n'est pas, aux yeux de Montaigne, parce que certains abusent du discours personnels, vice et vanité, qu'il faut l'interdire. Et c'est encore ici l'image du vin qu'il utilise. Faudrait-il condamner le vin parce que certaines personnes s'enivrent ? Si on abuse de quelque chose, suivant Montaigne, c'est parce que cette chose est bonne. Autrement dit, le parler de soi est bon puisqu'on peut en abuser. On ne peut abuser que des choses qui sont bonnes. Peut-être est-ce un sophisme, cela. Et croit de cette règle qu'elle ne regarde, la règle de ne pas parler de soi, qu'elle ne regarde que la populaire défaillance, la faiblesse ordinaire. Ce sont brides à veau, autrement dit des niaiseries, hein, des raisons pour les sots, que l'interdiction de parler de soi, desquelles ni les saints, que nous voyons si hautement parler d'eux, ni les philosophes, ni les théologiens ne se brident. Socrate, les saints, parlent d'eux-mêmes. On peut voir donc dans les essais quelque chose comme une sécularisation de cette pratique religieuse de la confession. Comme je disais, il y a un moment que l'honnête homme laïcise le saint homme des premiers siècles du christianisme. Un passage sur des vers de Virgile évoquait aussi la confession dès 1588, puisqu'ici il s'agit de l'addition de l'exemplaire de Bordeaux au chapitre de l'exercitation. En faveur des Huguenots, rare faveur sous la plume de Montaigne, qui accuse notre confession privée et auriculaire, je me confesse en public, religieusement et purement. Et vous revoyez le même adverbe. Je me confesse religieusement avec le double sens de ce religieusement, scrupuleusement et conformément à la religion. Saint Augustin, Origène et Hippocrate ont publié, mêlant les auteurs profanes et sacrés, Saint Augustin, Origène et Hippocrate ont publié les erreurs de leurs opinions, moi encore de mes mœurs. Je suis affamé de me faire connaître et ne me chaud à combien, pourvu que ce soit véritablement, ou pour dire mieux, je n'ai faim de rien, mais je crains mortellement d'être pris en échange par ceux à qui il arrive de connaître mon nom. Voilà l'épisode Martin Guerre, évoqué à la Renaissance. L'identité n'est pas encore aussi ferme qu'elle le sera quelques siècles plus tard, et on peut prendre quelqu'un pour un autre. Ici, on trouve une addition très marginale de l'exemple, très intéressante, une addition marginale de l'exemplaire de Bordeaux, très intéressante, qui est ajoutée là et que je vous donne, mais qui est biffée. Vous la voyez sur la gauche de l'écran. Plaisante fantaisie que cette écriture de soi. Plusieurs choses que je ne voudrais dire, plusieurs choses que je ne voudrais dire à personne, je le dis au peuple. C'est ça le paradoxe de l'écriture de soi. Ce qui est le plus intime, que je ne peux pas livrer à mes plus proches, à mes intimes, c'est ce que je rends public. Plusieurs choses que je ne voudrais dire à personne, je le dis au peuple. Et sur mes plus secrètes science et pensée renvoie à mon livre mes plus privés amis. C'est tout le paradoxe de l'écriture de soi qui est là. Et vous voyez qu'ici, cette addition est biffée. En vérité, on la retrouvera tout à l'heure parce que biffée ici, elle réapparaît dans un autre chapitre des essais, dans de la vanité. Ce qui nous montre comment Montaigne travaille et retravaille son texte, ajoutant ici, dans « Sur des vers de Virgile », la notation de ce paradoxe de l'écriture de soi, et puis trouvant qu'elle convient mieux dans un passage de la vanité. Montaigne est donc hostile à toute autre définition de la personne, notamment par sa condition et par son activité. Mon métier et mon art, c'est vivre. Nous avons vu cette mise en garde contre ceux qui se prennent pour leur métier. Qui me défend d'en parler selon mon sens, expérience et usage? Qui l'ordonne à l'architecte de parler des bâtiments non selon soi, mais selon son voisin, selon la science d'un autre, non selon la sienne? C'est un thème qu'on trouve souvent dans les essais, hein, cette mise en garde contre la science empruntée et cette affirmation d'un discours selon moi. Par exemple, dans De la gloire, hein, toute la gloire que je prétends de ma vie, c'est de l'avoir vécue tranquille, tranquille, non selon X ou Y, mais selon moi. Il poursuit ici, dans De l'exercitation, je m'étale entier. Passage, lui aussi, canonique. C'est un squelettos où, d'une vue, les veines, les muscles, les tendons paraissent, chaque pièce en son siège. Où, évidemment, on voit l'importance du corps dans la personne. Ce sont mes gestes que j'écris, c'est moi, c'est mon essence. Je tiens qu'il faut être prudent à estimer de soi et pareillement consciencieux à en témoigner, soit bas, soit haut, indifféremment. Le squelettos qui figure ici est emprunté à Plutarque. C'est le corps desséché, littéralement, mais Montaigne songe ici à la représentation anatomique. Le squelettos, c'est l'écorché des livres de médecine. Et Montaigne, dans son journal de voyage, les évoque lorsqu'il les a vus, ces livres de médecine, chez un libraire de Bâle. Il les appelle alors ces anatomies d'hommes morts qui se tiennent. Vous voyez que ça nous renvoie aux entrailles que j'évoquais tout à l'heure. L'être intime, il est dans l'écorché, il est dans les entrailles, et c'est là que se trouve ce que Montaigne appelle « c'est moi, c'est mon essence », cette essence individuelle. Le squelettos, ce n'est pas l'âme, ce n'est pas non plus le corps, mais c'est cette personnalité non localisable. Et Montaigne, comme souvent, cherche le juste milieu entre prudence et conscience. Fin de cette citation. Il faut être prudent à juger de soi et consciencieux à en témoigner. Naviguer au mieux entre le témoignage et le jugement, entre le haut et le bas, pourrait-on dire encore, puisque Montaigne poursuit en ces termes, de dire moins de soi qu'il y en a, c'est sottise, autrement dit, se mésestimer, c'est sottise, ce n'est pas modestie, se payer de moins qu'on ne vaut, c'est lâcheté et pusillanimité, selon Aristote, référence à l'éthique à Nicomaque, mais de l'autre côté, de dire de soi plus qu'il y en a, ce n'est pas toujours présomption, c'est encore souvent sottise. Vous voyez, la sottise est des deux côtés, dire moins et dire plus. Donc dire moins, c'est sottise et lâcheté, dire plus, c'est sottise et présomption. De s'amuser à soi, il leur semble, à ses objecteurs, que c'est se plaire en soi, de se hanter et pratiquer, que c'est se trop chérir, Il peut être, mais cet excès naît seulement en ceux qui ne se tâtent que superficiellement. Là aussi, expression importante, ce sont seulement chez ceux qui se tâtent superficiellement en surface et non dans la profondeur des entrailles ou du squelette qu'il peut y avoir cet amour de soi, cette illusion sur soi. On peut donc dire, me semble-t-il, que ce moi intime, c'est le moi chrétien, c'est celui du secret, c'est celui de l'aveu, c'est celui de la confession, tel que Michel Foucault les a, par exemple, analysés. Mais ici, il est sécularisé. « Je suis mon secret », dit, pour ainsi dire, Montaigne, et ce secret, je l'avoue, je suis, et c'est ce qu'est la personne moderne, je suis ce que je cache et que je montre pour être. Un individu autonome, indépendant, replié sur lui-même, défini par ses pensées, par sa vie intérieure. Voilà ce à quoi Montaigne nous introduit, à ce moi vivace qui, me semble-t-il, est toujours le nôtre, ce moi-je de la confession sincère qui s'expose dans le secret. Quelle est la forme privilégiée de cette intimité de soi à soi dans les essais? Bien, je crois qu'il y a deux termes suivant lesquels Montaigne la décrit, cette forme de l'intimité. C'est la méditation et c'est l'entretien. L'entretien de soi à soi. L'entretien de soi à soi qui est un succédané de l'amitié ou de la correspondance. Et on a beaucoup vu comment les essais se substituaient à la conversation avec l'ami perdu ou à la correspondance qui ne peut plus être. Dans le chapitre des trois commerces, vous voyez par exemple cette addition de l'exemplaire de Bordeaux sur ce que Montaigne appelle le méditer. Le méditer. Le méditer est un puissant étude et plein, 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 c'est-à-dire non vain, non superficiel, non vide. À qui sait se tâter et employer vigoureusement. Vous retrouvez cette expression se tâter. Tout à l'heure, c'était se tâter superficiellement. Si l'on se tâte superficiellement, eh bien, on est dans la vanité, dans le narcissisme, dans l'amour de soi. Mais le se tâter vigoureusement, c'est aller en profondeur et découvrir les secrets. Se tâter et employer vigoureusement, j'aime mieux forger mon âme que la meubler. Encore une fois, il s'agit toujours de l'âme, mais en quel sens ? Il n'est point d'occupation ni plus faible ni plus forte que d'entretenir ses pensées selon l'âme que c'est. Selon l'âme que c'est. C'est-à-dire selon l'âme qu'on a, selon qui on est. À chacun d'entretenir ses pensées selon qui il est. Les plus grandes âmes en font leur vacation, quibus vivere est cogitare, pour qui vivre ses pensées, citation de Cicéron. Ainsi, la nature a favorisé l'âme de ce privilège qu'il n'y a rien que nous puissions faire si longtemps, ni action à laquelle nous nous adonnons plus ordinairement et facilement. C'est la besogne des dieux, dit Aristote, de laquelle naît et leur béatitude est la nôtre. toujours l'éthique à Nicomaque. La lecture me sert spécialement à éveiller par divers objets mon discours, à embesogner mon jugement, non ma mémoire. Passage donc sur la méditation comme entretien avec ses pensées. Et Montaigne, dans ce passage du chapitre des trois commerces, veut illustrer sa particularité, justement, la particularité qu'il a découverte en lui-même, l'idiosyncrasie, la singularité qui est la sienne, à savoir que, dit-il, la plupart des esprits ont besoin de matière étrangère pour se dégourdir et exercer. Le mien en a besoin pour se rasseoir plus tôt et séjourner. La plupart des esprits ont donc besoin des livres pour exercer leur pensée. Montaigne, lui, dit-il, c'est le vieux thème du cheval échappé dans De l'oisiveté. Montaigne a besoin des livres pour sortir de la mélancolie, pour domestiquer ses chimères et ses fantasmes. Mais on le voit dans les deux cas, la lecture est là comme relais, comme incitation, comme mobilisation dans l'entretien de soi à soi. Vous voyez que Montaigne nominalise ce verbe, le méditer, pour insister sur l'action, entretenir ses pensées, action d'entretenir ses pensées. Voilà deux infinitifs et une nominalisation. Dialoguer avec soi. Et dans ce dialogue avec soi, le thème de l'entretien importe moins que la pratique de l'entretien. Il s'agit, a-t-il dit, de forger l'âme et non de la meubler. La méditation est donc ce dialogue avec soi et l'allusion à Aristote qui est là, c'est la besogne des dieux. Aristote, suivant lequel la méditation est une béatitude dans laquelle le sage rejoint les dieux. Nombreuses sont dans les essais les mentions de cet entretien de soi à soi. Et on pourrait dire, dès 1580, parce que c'est un thème qui vient de l'Antiquité, encore une fois, on peut sans doute reconnaître que c'est un topos de l'Antiquité tardive, et Montaigne le reprend. Autrement dit, nous le trouvons, mais il lui donnera une inflexion particulière, mais on le trouve dès 1580. C'est une forme de la sagesse ancienne, et vous vous souvenez de cette phrase que j'ai citée du chapitre de l'oisiveté, « Il me semblait ne pouvoir faire plus grande faveur à mon esprit en me retirant chez moi que de le laisser en pleine oisiveté s'entretenir soi-même et s'arrêter et rasseoir en soi. » L'esprit s'entretient avec lui-même et Montaigne escomptait de cet entretien la stabilité et l'assiette. Au lieu de cela, vous vous en souvenez, ce qu'il a trouvé, ce sont les chimères, d'où la nécessité de les écrire pour avoir une discipline. Il n'est rien de quoi, cette fois-ci c'est dans le chapitre « Que philosopher, c'est apprendre à mourir », également à un moment crucial, et Montaigne dit « Il n'est rien de quoi je me sois, dès toujours, plus entretenu que des imaginations de la mort. » La méditation prend toujours cette forme de l'entretien de soi à soi. Sur l'entretien avec soi, il y a encore un passage très connu. Voilà le méditer dans l'exemplaire de Bordeaux. Voilà le passage très connu du chapitre de la solitude. Ce que je veux montrer, c'est que dès le début des essais, cette notion d'entretien de soi à soi est très présente. Dans De la solitude et dans la première version du texte, en 1580, il se faut réserver une arrière-boutique toute nôtre, toute franche, en laquelle nous établissons notre vraie liberté et principale retraite et solitude. En celle-ci, faut-il prendre notre ordinaire entretien de nous à nous-mêmes. Notre ordinaire entretien de nous à nous-mêmes. Et si privé que nulle accointance ou communication étrangère y trouve place, discourir et y rire comme sans femme, sans enfant et sans bien, sans train et sans valet, afin que, quand l'occasion adviendra de leur perte, il ne nous soit pas nouveau de nous en passer. Nous avons une âme contournable en soi-même. Expression magnifique que celle de cette âme contournable en soi-même, c'est-à-dire capable de se replier sur soi. Elle se peut faire compagnie. Elle a de quoi assaillir et de quoi défendre. Elle a de quoi soutenir à la fois le pour et le contre, pro et contra, de quoi recevoir et de quoi donner. Ne craignons pas en cette solitude nous croupir d'oisiveté ennuyeuse. Et c'est important de retrouver l'oisiveté ici et l'ennui. Vous voyez qu'on est toujours dans la recherche de cet équilibre de la méditation et de la méditation fructueuse et de la méditation qui peut conduire aussi à l'anxiété et à l'angoisse, à la tentation des moines et des anachorètes. C'est donc une leçon ancienne, une leçon de sagesse antique. Mais Montaigne va bien au-delà que cette leçon et une addition à ce passage, dite ainsi, « La plus grande chose du monde, c'est de savoir être à soi. » Même notion, si vous voulez, dans la coda du chapitre de l'exercitation. Mais cet excès, l'excès du parler de soi, n'est seulement, en ceux qui ne se tâtent que superficiellement, phrase déjà vue, qui se voient après leurs affaires, qui appellent rêverie et oisiveté s'entretenir de soi. Vous voyez que les mots apparaissent toujours ensemble. Entretien de soi et oisiveté. Et s'étoffer et bâtir, faire des châteaux en Espagne, s'estimant chose tierce et étrangère à eux-mêmes. S'estimant chose tierce et étrangère à eux-mêmes. C'est l'opposition donc du moi et des affaires qui se voient après leurs affaires, qui viennent après leurs affaires, à laquelle Montaigne oppose la recherche de l'identité à soi. On peut encore ajouter que le lieu idéal pour Montaigne de cet entretien de soi à soi, c'est le cheval. C'est la promenade à cheval, comme locus par excellence de cette méditation comme entretien avec ses pensées. Pourquoi le cheval ? Parce que dans la promenade à cheval, on est trop loin de ses compagnons pour dialoguer avec eux, et parce que le mouvement du cheval entretient la pensée. À cheval, à la table, au lit, mais plus à cheval, c'est toujours dans sur des vers de Virgile, où sont mes plus larges entretiens. En voyage, la nécessité même des chemins coupe les propos. On ne peut pas avoir d'entretien prolongé. Outre ceux que je voyage plus souvent sont compagnie propre à ces entretiens de suite. Mes compagnons de voyage ne sont pas, conviennent pas à cette conversation. Par où je prends tout loisir de m'entretenir moi-même. Aucun lieu n'est plus propice à cet entretien que le cheval. Pour en venir, dirais-je, à cette leçon des dernières pages du chapitre de l'expérience, où on trouve à la fois encore ce champ de force des instances de l'individualité et cette notion de l'entretien comme le lieu même de l'être. Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Je suis dans l'immédiateté de ce que je fais. Voir est quand je me promène solitairement en un beau verger. Si mes pensées se sont entretenues des occurrences étrangères, quelque partie du temps, quelque autre partie, je les ramène à la promenade, au verger, à la douceur de cette solitude et à moi. L'entretien, c'est donc ce qui donne consistance à la personne. Il n'est personne, dit Montaigne, s'il s'écoute, qui ne découvre en soi une forme sienne, etc. Passage bien connu du Repentir. Et voici la leçon finale du chapitre de l'expérience, où cette idée de méditation revient. Nous sommes de grands fols. Il a passé sa vie en oisiveté. La voici de nouveau, disons-nous. Je n'ai rien fait d'aujourd'hui. Quoi, avez-vous pas vécu? C'est non seulement la fondamentale, mais la plus illustre de vos occupations. Si on m'eût mis au propre des grands maniements, j'eusse montré ce que je savais faire. Avez-vous su méditer et manier votre vie? Vous avez fait la plus grande besogne de toutes. Méditer et manier sa vie. Manier, c'est-à-dire la façonner avec les mains, la gérer, l'administrer, administrer sa vie. Tout cela est lié à l'entretien de soi, à soi. Je continue donc un moment au-delà de l'heure qui vient de passer, mais si certains doivent partir, faites-le maintenant avant que je reprenne la parole. Eh bien, je voudrais encore aborder, pour conclure, deux points. Mais rassurez-vous, ça ne durera pas une heure, cette coda, comme dans le chapitre de l'exercitation. Premier point, la forme même de cette écriture de soi. Montaigne écrit donc la vie. Mais peut-on parler de récit ? Peut-on parler de narration ? C'est une question importante, c'est une question capitale, justement parce que nous pouvons repérer dans les essais de Montaigne quelque chose comme l'émergence du moi moderne. Mais nous avons tendance à identifier ce moi moderne au récit, à la narration, au récit de vie, à la mise en intrigue d'une vie, à la cohérence narrative d'une vie. J'avais beaucoup insisté sur cela l'année dernière, sur cette identité narrative comme prémisse de toute vie morale. Pas de bonne vie sans récit de vie. Or, Montaigne, nous devons bien l'admettre, ne raconte pas sa vie, ou très peu. C'est d'ailleurs pourquoi on a parlé d'autoportrait plutôt que d'autobiographie. Voilà une écriture de soi qui conduit à une vie morale, mais qui ne repose pas sur un récit de vie. Sans doute avons-nous rencontré parfois des micro-récits enchâssés dans le texte des essais, des moments fragmentaires auxquels nous avons consacré des leçons au début de ce cours, mais il n'y a pas de grand récit de vie, il n'y a pas de récit englobant. Cette question du récit ou du non-récit de vie de Montaigne, elle est aussi abordée par Terence Cave dans le texte que je citais la semaine passée sur l'émergence du moi, il interroge également cette absence de récit soutenu dans les essais de Montaigne. Pourtant, au début du chapitre du repentir et ailleurs, Montaigne utilise beaucoup cette expression de récit. Vous vous souvenez des premiers mots du repentir ? Les autres forment l'homme, je le récite, et on représente un particulier bien mal formé. Début du prologue. Fin du prologue, je n'enseigne point, je raconte. Je récite, je raconte, nous dit Montaigne. Mais que veut-il dire par réciter, raconter ? Terence Cave fait remarquer que la traduction de Montaigne de Fleuriot, la première traduction de Montaigne de Fleuriot, traduit « je le récite » par « I repeat him » et que dans le dictionnaire de Cotgrave, réciter est traduit par repeat, rehearse. Réciter, ce serait donc répéter, représenter, comme au théâtre. Si le temps, c'est le récit, si le récit est la forme humaine du temps, le sens du temps dans les essais serait différent puisqu'il n'est pas lié au récit. Et il est vrai que le rapport à la chronologie dans les essais de Montaigne est tout différent de celui des mémorialistes, les mémorialistes contemporains qui font des récits, de grands récits. Montaigne dit dans le chapitre de la vanité « Mon livre est toujours un, sauf à mesure qu'on se met à le renouveler, afin que l'acheteur ne s'en aille les mains du tout vides, je me donne loi d'y attacher, comme ce n'est qu'une marqueterie mal jointe, quelque emblème supernuméraire. Ce ne sont que surpoids qui ne condamnent point la première forme, mais donnent quelque prix particulier à chacune des suivantes par une petite subtilité ambitieuse. De là, toutefois, il adviendra facilement qu'il s'y mêle quelques transpositions de chronologie, mais comptes prenant place selon leur opportunité, non toujours selon leur âge. Bref, la chronologie ne sera pas respectée. Ce ne sera pas un récit suivi, soutenu, avec un début, un milieu et une fin. Les épisodes seront donnés selon leur opportunité, lorsqu'il sera opportun de les convoquer. Montaigne emploie beaucoup ces mots « récit », conte, C-O-N-T-E, conte, C-O-M-P-T-E, narration, déduction. Lorsque j'avais parlé de la nouvelle, il y a longtemps, je l'avais évoqué comme court récit d'un événement récent inséré dans les essais, avec le style de l'attendu juridique. Le conte, c'est un récit de choses vraies. La nouvelle, c'est la même chose. Mais Montaigne est peu sensible à ces nuances et il raconte des contes, C-O-N-T-E, et des contes, C-O-M-P-T-E, et des nouvelles, sans faire très attention aux nuances de sens. Je rappelle tout de même que le conte et le conte, C-O-N-T-E, C-O-M-P-T-E, veulent tout dire, viennent tous deux de l'énumération. Les essais sont plutôt du côté de l'énumération que de la mise en intrigue. Montaigne énumère, et cela nous reconduit au registre ou au rôle que j'avais évoqué il y a longtemps. Lorsque Montaigne récite, je crois qu'on peut admettre qu'il s'agit donc d'abord d'une représentation, d'une répétition et d'une représentation. Réciter, c'est lire à haute voix, c'est rapporter les paroles de quelqu'un. Réciter, c'est donc rapporter dans les essais. Et lorsque Montaigne parle de raconter, raconter, c'est dépeindre. C'est le sens qu'a le mot le plus généralement. Ainsi, dans l'Apologie, Montaigne dit ceci. Mes mœurs sont naturelles, je n'ai point appelé à les bâtir le secours d'aucune discipline. Mais, toutes imbéciles qu'elles sont, quand l'envie m'a pris de les réciter, de les montrer, de les représenter, et que pour les faire sortir en public un peu plus décemment, je me suis mis en devoir de les assister et de discours et d'exemple, ce a été merveille à moi-même de les rencontrer par cas d'aventure conforme à tant d'exemples et discours philosophiques. De quel régiment était ma vie, je ne l'ai appris qu'après qu'elle ait exploité et employé. Nouvelle figure, un philosophe imprémédité et fortuite. Réciter mes mœurs, c'est donc les représenter avec l'aide de discours et d'exemples. Et on retrouve ici cette dialectique évoquée il y a un moment de l'entretien de soi et de la lecture, ce mouvement de va-et-vient entre soi et les livres. Cette roue libre de la méditation ou de l'entretien et puis ce point fixe des exemples et des discours. Mais quel genre de récit, de représentation ? Il s'agit toujours d'un récit non suivi, non soutenu, d'un récit, pour ainsi dire, déceptif, sur le modèle de cette chasse sans prise que Montaigne évoque souvent. Terence Cave donne un joli exemple d'une anecdote autobiographique insérée dans les essais, précisément dans le chapitre du repentir, et qui est en quelque sorte un contre-exemple du modèle du récit. Le modèle du récit, c'est le récit pénitentiel, le récit qui mène à une conversion, à une transformation de soi. Écrire une vie, c'est écrire une conversion. Or, Montaigne nous raconte, nous représente la vie d'un voleur sans conversion, sans culpabilité. Premier temps, en la terre d'un mien parent, l'autre jour que j'étais en Armagnac, je vis un paysan que chacun surnomme le larron. Il faisait ainsi le compte de sa vie. Et vous retrouvez ces formes analysées il y a longtemps, comment Montaigne fait toujours tenir tout un récit dans une phrase, avec des rallonges de participes et d'infinitifs. Qu'étant né mendiant, et trouvant qu'à gagner son pain au travail de ses mains, il n'arriverait jamais à se fortifier assez contre l'indigence, il s'avisa de se faire larron, et avait employé à ce métier toute sa jeunesse en sûreté par le moyen de sa force corporelle, car il moissonnait et vendangeait des terres d'autrui. Mais c'était au loin et à si gros monceaux qu'il était inimaginable qu'un homme en eût tant rapporté en une nuit sur ses épaules, et avait soin, outre cela, d'égaler et disperser le dommage qu'il faisait, si que la foule était moins importable à chaque particulier. Voici un larron rusé. Second temps, qui devrait être celui de la conversion, de l'après, avec le recours de la grâce, avec le secours de la grâce. Il se trouve à cette heure, en sa vieillesse, riche pour un homme de sa condition, merci à cette trafic, grâce à son trafic, de quoi il se confesse ouvertement. Et pour s'accommoder avec Dieu de ses acquets, il dit être tous les jours après à satisfaire par bienfait aux successeurs de ceux qu'il a dérobés. Et s'il n'achève, car d'y pourvoir tout à la fois il ne peut, qu'il en chargera ses héritiers, à la raison de la science qu'il a lui seul du mal qu'il a fait à chacun. Voilà un larron sans repentir, puisqu'il prend lui-même en charge la rétribution de ses victimes. Et voici la morale, troisième temps de ce petit récit, par cette description, et vous voyez ici combien le mot « description » entre en concurrence chez Montaigne avec « récit » ou « conte ». Description. Par cette description, soit vraie, soit fausse, celui-ci regarde le larcin comme action déshonnête et la haie, mais moins que l'indigence. S'en repent bien simplement, mais en tant qu'elle était ainsi contrebalancée et compensée, il ne s'en repent pas. Il a trouvé le juste milieu entre le repentir et le non-repentir, de payer les intérêts de son capital à ses victimes. Cela, ce n'est pas cette habitude qui nous incorpore au vice et s'y conforme, etc. Je passe sur la fin, mais voilà le modèle d'un récit sans repentir, sans conversion ni péripétie, sans dénouement, sans ligne et sans clôture. Et Terence Cave le prend comme exemple du récit de vie à la Montaigne, un récit de vie qui n'est pas téléologique, qui conduit à la mort, fatalement, mais non comme rédemption. Là encore, on peut dire que la forme du récit de vie de Montaigne, c'est celle du voyage, c'est celle de la chasse et c'est idéalement celle de la promenade à cheval. Montaigne parle ainsi du voyage de sa vie. Et dans le chapitre de la vanité, ce thème est longuement développé, associant l'écriture au voyage, faisant du voyage la métaphore du parcours de la vie. Ainsi commence le chapitre « Qui ne voit que j'ai pris une route par laquelle, sans cesse et sans travail, j'irai autant qu'il y aura d'encre et de papier au monde. Mais il y devrait avoir quelque coercion des lois contre les écrivains ineptes et inutiles, comme il y a contre les vagabonds et fainéants. On bannirait des mains de notre peuple et moi, et sans d'autres. » Avec cette comparaison de l'écrivain au vagabond est essentielle. Et il y a en effet des lois contre les vagabonds à la Renaissance. Mais tout ce chapitre est traversé de ce thème. Montaigne écrit ainsi « Il faut que j'aille de la plume comme des pieds. » Ou encore « Mon style et mon esprit vont vagabondant de même. » Contre le modèle du récit qui va vers une fin, ou du voyage comme pèlerinage à Jérusalem ou à Rome, le voyage avec un but, le récit de Montaigne est fait comme une déambulation où les détours se multiplient. Toujours dans le chapitre de la vanité, Montaigne écrit « Je réponds ordinairement à ceux qui me demandent raison de mes voyages, que je sais bien ce que je fuis, mais non pas ce que je cherche. Je sais ce que je fuis, la guerre civile. Je ne sais pas ce que je cherche, et pourtant Montaigne va vers Rome, la ville sainte. Il répond à une objection contre ses voyages, mais en tel âge, vous ne reviendrez jamais d'un si long chemin. Que manchot-il ? Je ne l'entreprends ni pour en revenir, ni pour le parfaire. J'entreprends seulement de me branler, de me mettre en mouvement, pendant que le branle me plaît, et me promène pour me promener, addition de l'exemplaire de Bordeaux. Ceux qui courent un bénéfice ou un lièvre ne courent pas. Ceux-là courent qui courent au bar et pour exercer leur course. Mon dessein est divisible partout, il n'est pas fondé en grandes espérances. Chaque journée en fait le bout et le voyage de ma vie se conduit de même. Voilà le voyage de la vie, cet itinéraire révisable quotidiennement au cours duquel Montaigne est prêt à mourir à chaque instant. Chaque journée en fait le bout. Je sais bien, dit-il encore, qu'à le prendre à la lettre, ce plaisir de voyager porte témoignage d'inquiétude et d'irrésolution. Aussi sont ce nos maîtresses qualités et prédominantes. Oui, je le confesse, je ne vois rien, seulement en songe et par souhait où je me puisse tenir. La seule variété me paye et la possession de la diversité, au moins si aucune chose me paye. À voyager, cela même me nourrit, que je ne puis arrêter sans intérêt et que j'ai où m'en divertir commonément. Le voyage mène sans doute à Rome. De la vanité se termine par la transcription de la bulle le faisant citoyen romain, mais avec des méandres, des détours, et la mort, dont il est beaucoup question, sera au bout du voyage. Mais tout cela structure peu le récit. Et Montaigne avoue qu'il préférerait une mort en voyage, au cours du voyage, entre parenthèses, pour ainsi dire. Certes, le plus grand déplaisir de mes pérégrinations, c'est que je n'y puisse apporter cette résolution d'établir ma demeure où je me plairai, et qu'il me faille toujours proposer de revenir. Au fond, proposer de revenir, c'est-à-dire il me faut toujours postuler que je reviendrai pour m'accommoder aux humeurs communes. Dans un voyage, on revient. Si je ne craignais de mourir en autre lieu que celui de ma naissance, si je pensais mourir moins à mon aise, éloigné des miens, à peine sortirais-je hors de France. Je ne sortirais pas sans effroi hors de ma paroisse. Je sens la mort qui me pince continuellement, la gorge ou les reins, mais je suis autrement fait. Elle m'est une partout. Si toutefois j'avais à choisir, ce serait, se croirais-je, plutôt à cheval que dans un lit. Vous voyez ce modèle de cette assise en mouvement, cheval, lieu de l'entretien, lieu de la promenade et lieu idéal de ce dernier passage. Enfin, je voudrais conclure ce cours sur les effets de l'écriture de vie sur la vie. Car Montaigne l'affirme d'un bout à l'autre des essais, écrire n'est pas une fin en soi. Il dénonce sans cesse le métier d'écrivain. Ainsi, à la toute fin du chapitre de la ressemblance des enfants au père, c'est-à-dire la fin du livre 2 des essais, la toute fin du livre 2 des essais en 1580, il fait cette déclaration capitale. Ce serait une sotte humeur d'aller à cette heure que je suis prêt d'abandonner le commerce des hommes, me produire à eux par une nouvelle recommandation. Le livre. Je ne fais nulle recette des biens que je n'ai pu employer à l'usage de ma vie. Quel que je sois, je le veux être ailleurs qu'en papier. Mon art et mon industrie ont été employés à me faire valoir moi-même. Mes études à m'apprendre à faire, non pas à écrire. J'ai mis tous mes efforts à former ma vie. Voilà mon métier et mon ouvrage. Je suis moins faiseur de livres que de nulle autre besogne. On voit se nouer dans cette proposition finale des essais en 1580 beaucoup des thèmes que j'évoquais aujourd'hui. La méfiance à l'égard du métier comme définition de soi, la volonté de former la vie et non de remplir l'âme. Et puis, je voudrais insister sur cette belle expression, l'usage de ma vie. L'usage de ma vie. Peut-être à rapprocher de cette expression, l'usage du monde, que Montaigne utilisait dans Des Boiteux et qui avait donné le titre du livre de voyage de Nicolas Bouvier. Mais il y a un bénéfice, une prime de l'entretien de soi dans la vie, et on ne peut pas l'ignorer. Dans le chapitre de la vanité, je sens ce profit inespéré de la publication de mes mœurs qu'elle ne me sert aucunement de règle. Il me vient parfois quelque considération de ne trahir l'histoire de ma vie. Il y a donc bien une histoire qui devient un moule. Cette publique déclaration m'oblige de me tenir en ma route. Autrement dit, moins de méandres, moins de zigzags, moins de digressions, et à ne démentir l'image de mes conditions, communément moins défigurées et contredites que ne portent la malignité et maladie des jugements d'aujourd'hui. Montaigne insiste souvent sur cet effet rétroactif du livre sur la vie. Et quand personne ne me lira, ai-je perdu mon temps de m'être entretenu tant d'heures oisives à pansements si utiles et agréables ? Moulant sur moi cette figure, il m'a fallu si souvent dresser et composer pour m'extraire que le patron s'en est fermi et aucunement formé soi-même. Me peignant pour autrui, je me suis peint en moi de couleurs plus nettes que n'étaient les miennes premières. Et je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre m'a fait, livre consubstantiel à son auteur, d'une occupation propre, membre de ma vie, non d'une occupation et fin tierce et étrangère comme tous autres livres. Ai-je perdu mon temps de m'être rendu compte de moi si continuellement, si curieusement ? Passage dans lequel on retrouve, je le cite, je le récite, il est connu, mais on y retrouve tous les thèmes évoqués sur cet entretien de soi à soi devenu compte-rendu de soi. Le livre a bien été un exercice, une discipline et une assaise, mais Montaigne ne s'arrête pas encore à cela, à cet effet du livre. La conscience personnelle acquise dans cet entretien et dans l'écriture permet un retour réfléchi au monde et vers autrui. L'individu qui s'est défini hors du monde dans l'entretien de soi à soi devient capable d'incarner cet honnête homme moderne dans le monde, de retourner au monde et d'y jouer son rôle sans s'y réduire, comme on l'a vu, rôle d'un personnage emprunté. Et Montaigne ne renonce jamais à l'espoir que le livre lui donne une nouvelle société, un nouvel ami. C'est le rôle, c'est la place que prendra Mademoiselle de Gournay. Outre ce profit que je tire d'écrire de moi, profit, vous avez noté l'abondance de ce mot dans beaucoup de ces citations, le profit de l'écriture de soi et d'abord de l'entretien avec soi. Outre ce profit que je tire d'écrire de moi, j'en espère cet autre, que s'il advient que mes humeurs plaisent et accordent à quelque honnête homme, de nouveau l'honnête homme, qui apparaît dans ses essais, avant que je meure, il recherchera de nous joindre. Je lui donne beaucoup de pays gagnés, car tout ce qu'une longue connaissance et familiarité lui pourrait avoir acquis en plusieurs années, il le voit en 3 jours, en ce registre, et plus sûrement et exactement. Le livre est quelque chose comme une carte de visite, hein, ainsi que Montaigne le présente ici, ou une bouteille à la mer, à la recherche de l'honnête homme. Et puis, c'est ici justement que vous retrouvez ce paradoxe que j'évoquais il y a un moment, que Montaigne avait biffé dans, sur des vers de Virgile, considérant que cette place-ci était plus opportune. Plaisante fantaisie, plusieurs choses que je ne voudrais dire à personne, au particulier en 1595, je l'ai dit au peuple, au public, et sur mes plus secrètes sciences ou pensées, renvoie à mon livre « Mes plus privés amis », comme on l'avait vu tout à l'heure, à une boutique de libraire, « Mes amis les plus féaux ». Exécutienda damus praecordia, citation de Perse, nous offrons à l'examen la vie, le fond de notre cœur. Ainsi, vous le voyez, ce détour par soi initie un retour à l'autre. La vie hors du monde est le préalable de la vie dans le monde et Montaigne réoriente son expérience vers le dehors, de l'introspection à l'observation et à l'action. Je crois qu'il est important de souligner, pour finir, que cette conscience de soi qui est au bout de cet entretien avec soi et de cette écriture de soi ne conduit nullement à l'enfermement, mais à un redéploiement dans le monde. Et c'est un peu la réflexion définitive sur laquelle je voudrais conclure, qu'on trouve dans de l'expérience. Voilà l'addition que je venais de vous montrer sur la gauche, plaisante fantaisie avec ses corrections. Cette longue attention que j'emploie à me considérer me dresse à juger aussi passablement des autres. Et peu de choses de quoi je parle plus heureusement et excusablement. Il m'advient souvent de voir et distinguer plus exactement les conditions de mes amis qu'ils ne font eux-mêmes. J'en ai étonné quelqu'un par la pertinence de ma description et l'ai averti de soi. Pour m'être, dès mon enfance, dressé à mirer ma vie dans celle d'autrui, à me lire dans l'autre, j'ai acquis une complexion studieuse en cela, et quand j'y pense, je laisse échapper autour de moi peu de choses qui y servent. Contenance, humeur, discours. J'étudie tout ce qu'il me faut fuir, ce qu'il me faut suivre. Ainsi, à mes amis, je découvre par leur production leurs inclinations internes. Non pour ranger cette infinie variété d'actions si diverses et si découpées à certains genres et chapitres et distribuer distinctement mes partages et divisions en classes et régions connues. Autrement dit, je les observe non pour faire un traité savant, mais pour guider et conseiller. D'où le rêve que fait Montaigne dans le passage qui suit, d'avoir été conseiller du prince. Le meilleur métier que j'aurais pu accomplir, c'est ce qu'il appelle cet office sans nom, ce rôle qu'il aurait volontiers tenu de conseiller le prince. Concluons donc le cours de cette année sur cette ouverture au monde et à l'autre à laquelle conduit l'écriture de la vie. En toute cette fricassée que je barbouille ici, dit Montaigne, n'est qu'un registre des essais de ma vie. J'ai insisté sur cela aujourd'hui, registre, non récit, sans début ni milieu ni fin, exemple d'un moi, d'une personne qui ne dépend pas du récit de vie, d'une conscience de soi, mais qui n'est pas autobiographique, et sans conversion ni repentir. Mais il ne s'agit là nullement d'une fin en soi, plutôt d'une initiation et d'un retour vers l'autre. Et c'est en cela, me semble-t-il, que cette écriture de vie, même si elle n'est pas un récit, constitue pleinement une vocation morale. Je vous remercie.